Bonsoir tout le monde, pour à toutes et à tous. Donc cette soirée, en fait, bon, elle est maintenant inscrite dans le festival Bruit de Langue, comme une soirée comme les autres. Mais c'est en même temps aussi un prolongement d'un autre débat qu'on a mené le 18 octobre dernier à la médiathèque, où Camille, lui, était malade, ne pouvait pas venir. Donc c'était déjà prévu dans cette combinaison-là, avec les Body Systems, en troisième participant. Et la question reste un peu toujours la même, donc on se l'a déjà posée en octobre, peut-être aussi il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça ne change pas vraiment. Mais il sera question de mots ou de narration aussi qu'on subit, qu'on nous présente des choses et peut-être aussi de voir ce qu'on peut faire contre ça, ou ce qu'on peut en fait narrer, expliquer autrement ce qui est présenté en fait dans les médias ou par les hommes politiques, aussi par les partis. Donc vous vous rappelez peut-être, il y a le terme migrant déjà, il n'y a rien qui est innocent, le terme migrant est maintenant devenu un équivalent de quelqu'un qui erre dans plusieurs pays, qui ne s'installe jamais, et l'injonction à la police ou l'injonction ministérielle à la police d'éviter toute installation va aussi un peu dans le sens. Hein. Il faut en fait leur interdire ou éviter toutes sortes de campements, c'est ça le... Peut-être l'ordre tacite, mais qui est quand même largement respecté par les forces de police. Et pour les mots, dans un autre terme aussi, je viens de commencer un livre d'un médiéviste qui a déjà fait des recherches sur l'immigration au Moyen-Âge ou avant. Vous vous rappelez peut-être de vos manuels scolaires. On parlait d'un 400 après Jésus-Christ, il y a les invasions barbares dans ces manuels. Donc on parle de ça. Si on va en Allemagne, à l'école, on apprend que ce n'est pas les invasions barbares, c'est la migration des peuples. Ou la randonnée même, parce qu'ils parlent Wanderung, c'est la randonnée en Allemagne. Donc c'est vraiment quelque chose de moi, tout le monde se déplace et va aller quelque part pour s'y installer. Et bon, comme tous ces termes-là, comme les Vandales aussi, les Vandales, en fait, c'était tout simplement des mercenaires de Rome qui n'étaient pas contents de recevoir une mauvaise paye. Et ensuite, ils se sont vengés de cette manière-là. Voilà, donc c'est juste pour dire comment les mots sont importants. Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé la solution, peut-être vous l'avez. qu'est-ce qu'on peut dire à la place de migrants? Parce qu'il y a des statuts, il y a le statut de réfugié, il y a les mineurs isolés, il y a toutes sortes de statuts légaux, mais il n'y a rien qui, à part, peut-être immigrant, pour moi, c'est encore le terme le plus neutre, qui dit tout simplement quelqu'un part pour une bonne raison de son pays pour aller dans un autre. Donc ça pourrait être ça, mais je n'ai pas de solution pour l'instant. Et c'est un peu ça, au fil de l'objectif, ou même pas l'objectif, mais le sujet de cette soirée, de discuter de ça. Et on va commencer par deux interventions de nos invités. Donc il y a Camille Louis, qui est dramaturge et philosophe, et qui a fait, je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est une sorte de plateforme de publication et d'action qui s'appelle La Jungle et la Ville, qui a été fondée avec Étienne Tassin, qui est malheureusement mort trop tôt. Donc, vous trouvez les publications sur Mediapart, dans le club, et peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas. Non,
je peux prendre moi aussi le micro, je peux faire comme ça. Ouais. Oui. Bonsoir. Oui, c'est sur la plateforme sur Mediapart, et puis plusieurs des textes ont été repris. Enfin, il y a un numéro de la revue Tumulte qui vient de sortir, dont on peut retrouver des choses, des textes qu'on avait écrits avec Étienne, qui sont dans un texte final d'Étienne Tassin. Mmh. Et après, cette plateforme, comme tu as dit, qui est animée, mais donc on l'animait à deux, mais elle va reprendre du service. C'est juste elle a besoin d'une petite pause. Si vous la suiviez, sachez que vous pourrez continuer à lire des choses.
L'appel est juste de Calais. Donc ça, en fait, c'est un peu situé aussi dans le Calaisis. Et maintenant, tu viens de Dunkerque, donc ça continue dans ce cadre-là. Athènes aussi, je suppose. Donc il y a des allers-retours entre les deux. Et puis il y a Camille, Marie Cosnet, connaît. Il y a toujours des personnes qui disent connaît. Cosnet, tu le prononces comment ton nom?
J'ai toujours entendu prononcer le S, mais.
Oui, tu entends le S, oui. Le S du basque.
Bah, voilà.
Ouais, oui, ouais. Donc qui est écrivaine et traductrice de latin, militante. Ou très investi, en tout cas à Bayonne, dans un réseau de protection, de suivi juridique et d'hébergement de mineurs isolés. Et maintenant, on commence un peu à rassembler toutes sortes d'adresses à travers la France, parce qu'il n'y a pas seulement l'entrée en France qui est difficile, parce que Bayonne est devenue la porte d'entrée principale de surtout des mineurs, je crois, qui ne passent plus par la Libye, qui arrive par le Maroc ou par l'Algérie. Et après, mais même ça, c'est difficile aussi de circuler à l'intérieur de la France. Donc c'est pas seulement le passage de la frontière, mais après, c'est pas du tout gagné.
Et à l'intérieur des villes.
Oui, à l'intérieur des villes.
C'est difficile de circuler.
Donc les centres de rétention, donc on connaît en fait tout le dispositif qui est mis en place pour gérer, comme ils disent, pour gérer l'émigration et les contenir et les refouler. Voilà, mais je vous laisse la parole parce que j'étais déjà un peu trop long là. C'est qui commence? Et donc il y a de courtes interventions des deux, ensuite discussion à bâton rompu.
Moi ça va être bref, hein, CVA. Je pensais reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois et où tu étais là, mais en pensée. Et c'était un moment où, je ne sais pas si on se souvient, que l'Aquarius cherchait un port. Hein. C'était le moment où on pouvait attendre un jour, deux jours, trois jours avant que quelqu'un donne une réponse. Et puis finalement, c'était Malte qui avait dit, après un sacré bon bout de temps, qui avait dit que oui, il allait accueillir les naufragés et que l'Europe se les partagerait. Ça faisait 40 à partager en plusieurs pays, vous vous rappelez. Et la France était tue. Et en fait, ce silence, puisque les mots qui dérivent, le silence, là, me semble être une grave dérive. En tout cas, la possibilité de silence et de refus annonçait ce qu'aujourd'hui nous voyons, puisque les étapes qui sont criminelles, en réalité, à force de les voir franchir de moins en moins, et ce qu'on craignait de voir venir, en fait, on voit que c'est venu, mais on ne sait toujours pas quoi en faire. En fait, les pays européens, pendant un certain temps encore, il y a à parier qu'ils vont continuer à se partager quelques naufragés qui tourneront en mer de plus en plus longtemps. Et puis les morts seront de plus en plus nombreuses. Et puis aussi l'indifférence sera de plus en plus grande. Pas parce qu'on est des criminels dans l'âme ou des salauds, mais au contraire parce qu'on ne l'est pas. Et du coup, comme on ne l'est pas, on ne peut pas se dire que ce qui se passe... Que ce que nous commettons ou ce que nous supportons que soit commis soit criminel, ça ne peut pas être un crime. Du coup, nous supportons parce que ça ne peut pas être un crime, parce que nous ne sommes pas des criminels. Alors, c'est là où nous en sommes. Et ça fait longtemps que ça dure, puisque... ce que tu dis tout à l'heure, et tu vas en reparler sur les forêts, en effet, mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, 2007, je ne sais plus combien de temps ça fait, mais l'enfermement en rétention, on commence à enfermer des gens qui n'ont pas commis de délit. Tout le monde, on trouve ça scandaleux, bien sûr, mais n'empêche que l'enfermement des gens qui n'ont pas commis de délit laisse le soupçon, hein, mais il ne serait pas un peu quand même coupable, enfin, etc., etc. Toutes ces choses-là qui, petit à petit, nous ont tous, j'imagine, poussé à de l'acceptation, qu'on le veuille ou non, une forme d'acceptation. De l'autre côté, tous les empêchements successifs, demander l'asile politique, quand on est d'Afrique de l'Ouest, moi je vis à Bayonne, je vis donc à la frontière entre Hendaye et Bayonne, à la frontière entre la France, enfin le Pays Basque Nord, le Pays Basque Sud, la France et l'Espagne, et c'est l'Afrique de l'Ouest, tous les gens d'Afrique de l'Ouest qui arrivent là. Bon, demander l'asile, même maintenant, quasiment plus personne ne veut laisser ses empreintes en France. Ils attendent d'être en Allemagne pour les laisser et bientôt ils ne les laisseront plus en Allemagne non plus. Bref, donc en fait l'asile est devenu impossible quand on vient d'Afrique de l'Ouest, c'est quasiment... Voilà, donc le refuge politique, on sait bien qu'il est accordé selon des critères qui n'ont jamais été repensés depuis 51. Donc Le réfugié climatique, ça n'existe pas. L'enfance, ça n'existe pas non plus. Quand on est, quand on vient d'Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas, l'enfance. Elle est sans cesse niée. Les papiers sont jugés inauthentiques, ou en tout cas, ou faux, ou pas convenables, ou etc. Donc, en fait, toutes les portes se ferment. Et même lorsque, par bonheur, l'enfance est reconnue, lorsque quelqu'un arrive à 14 ans, on y arrive un peu, à 14 ans, à faire reconnaître par l'institution, par les départements, un enfant et à ce qu'il soit protégé par l'aide sociale à l'enfance de son département. Même dans ce cas-là, de plus en plus de départements aujourd'hui, à 18 ans, arrêtent la protection brutalement, donc ne donnent pas suite au contrat jeune majeur. Donc c'est de plus en plus de départements. Et les préfectures donc, n'accordent pas de titre de séjour. Bon, on en reparlera. Tu parlais de mots et l'histoire de Dublin avec la possibilité pour y échapper de se mettre en fuite, c'est comme ça qu'on dit, on se met en fuite pendant 18 mois et comme ça on peut après, en effet, on est lavé de Rodac, on n'a plus ses empreintes dans voilà. Ça fait des gens des fuyards et c'est plus des migrants, hein, c'est des fuyards, tu vois, donc c'est voilà. Et puis ensuite, donc quand on était là et qu'on devait se parler avec Amy, donc l'Aquarius tournait en rond. Aujourd'hui, un bateau, l'Aita Mari, qui a été affrété, qui a été acheté par le gouvernement basque, et puis affrété par la société civile, à force de cagnottes, etc., et de temps, et de travail aussi, et de bénévolat, a le pavillon espagnol, et a eu ses papiers obtenus, ça fait un an qu'ils les attendent, et ils les ont eus il y a un mois à peu près. Et il était le bateau au port de Pachaya, qui est à côté de Saint-Sébastien, au Pays Basque. Et il attendait de partir, et il devait partir lundi, il y a 15 jours. Et lundi, il y a 15 jours, il a eu l'interdiction de partir du gouvernement de Pedro Sanchez, sous ces termes-là. Pourquoi ? Parce que devant la fermeture des ports sûrs les plus proches de la zone de naufrage, donc Malte et l'Italie, le bateau devrait revenir par la route de l'Atlantique, puisque toujours un port, en effet, lui serait ouvert, c'est Bilbao, c'est Pachaya, etc., pour débarquer les rescapés. Et ainsi, le bateau ferait courir le risque aux rescapés, et des risques à l'équipage aussi, de trop grands risques. Donc, au nom des risques, il vaut mieux qu'il se noie en Méditerranée centrale. Enfin, ça c'est pas dit dans le décret, dans le communiqué. Donc, en fait, on ne va pas prendre le risque d'une navigation qui est longue et compliquée à ceux qui... On ne va pas leur faire courir ce risque à ceux qui se noient en mer. Donc, mieux vaut donc qu'ils se noient. Et ensuite, il y a quand même un autre sous-entendu dans cette interdiction, c'est que les autres ports n'étant pas ouverts, le mien non plus. Et c'est quand même très, très... Ça a vraiment beaucoup choqué l'équipage qui était prêt à partir. Parce que, justement, c'est parce que il se disait qu'il y aurait toujours un port de secours du style traverser un bout d'Atlantique pour revenir. Et c'était pas tellement plus, ils le disaient d'ailleurs tous, c'était pas d'ailleurs plus choquant, enfin c'était pas plus dangereux de revenir à Bilbao, par exemple, ou même, ils avaient la possibilité des Baléares, qui est pas si loin en fait, et c'était pas plus dangereux d'aller aux Baléares que d'attendre 15 jours autour de Malte, que Malte dise oui finalement, on va se les partager. Alors là, en ce moment, ils sont à Bilbao, ils y sont tout le mois de février et ils tentent on peut aller voir sur Internet Aita Mari, mais il n'est pas le seul, hein, il y a l'Open Arms aussi, bateau catalan, qui est exactement dans la même situation. Et en fait, quand on dit ça, les autres ports ne sont pas ouverts, donc le mien non plus ne sera pas ouvert. C'est trop dangereux, donc de toute façon, c'est ce qu'on entend aussi dans les squats, c'est trop dangereux, ce sont des conditions qui ne sont pas salubres, donc on ferme. Enfin, c'est exactement la même logique, en fait. En fait, on voit bien que ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la pensée. Une phrase comme ça, si on la décortique, ça ne tient pas. Ou alors, c'est un sous-entendu qui n'est pas dit, qui n'est pas entendu, c'est un non-dit qui est hyper régressif et tribal, dans le sens où... seul celui qui est le même que moi, je l'aide en fait. Et ça, c'est pour le coup une valeur ou un sous-entendu qui n'est pas, quoi qu'on y arrive, encore normée par les lois n'en sont pas là, le droit n'en est pas là, et la morale non plus, visiblement. Et pourtant, dans les mots et dans les façons de l'imposer comme ça, à force de petits glissements ou de gros glissements, ça finit par être possible. En fait, c'était une première réflexion. Après, je voulais parler encore une fois de ce qui se passe à la frontière, au Pays Basque, puisque depuis à peu près 6 mois, c'est la route par le Maroc, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne qui est la plus empruntée, en tout cas par les gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Et on a vu arriver à peu près 200 personnes par jour à la frontière, à Irun. À Irun, s'est ouvert une petite maison qui était pas très organisée, mais comme on aime bien au début que ce soit pas très organisé. Ça s'appelle la Cachita, la petite maison. Et donc là, sont arrivés tout un tas de gens, soit déjà militants de causes humanistes, peu importe, beaucoup de militants basques aussi qui ont des réseaux de protection à l'intérieur du Pays basque, mais aussi des gens que personne n'avait jamais vus dans ce genre d'action, donc des gens un peu plus âgés, retraités, etc. Et un accueil spontané s'est organisé. La mairie d'Irun, Irun, c'est à la frontière, hein. Y a un pont qui va d'ici à peu près jusqu'au mur, et de l'autre côté, c'est Hendaye, c'est la France. D'accord. Et la maison était du côté Irun, côté espagnol, voilà. Et pas du tout de... Alors là, il y a 6 mois à peu près, pas du tout de police, pas du tout de surveillance policière, sauf 2-3 personnes en civil de l'autre côté du pont que tout le monde repérait comme étant des flics, en fait, donc tout le monde le savait. Et là, le pont a été passé assez facilement, jamais les personnes n'a mis quelqu'un dans sa voiture, enfin, en tout cas, si, bien sûr que oui, mais pas officiellement, enfin, c'est pas ce qui se disait, on disait qu'on le faisait pas, mais on pouvait passer ce pont, il y a trois points de passage, et les gens passaient, c'est 2 euros le bus, si on passe en bus, on peut passer en bateau, et on peut passer à pied. Puis ça, c'est devenu plus compliqué, mais plus compliqué, ça veut dire, on était très très loin des situations de ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire que simplement les policiers en civil de l'autre côté du pont faisaient signe aux gens de repartir. Donc une fois, deux fois, trois fois, mais les gens finissaient par passer. Et puis après, les passeurs sont arrivés, qui sont des gens qui viennent de Bilbao, en fait, de la communauté camerounaise et guinéenne, à qui les gens en exil ont fait davantage confiance qu'à nous, en fait. Parce que d'abord, on leur demandait de l'argent pour passer, beaucoup d'argent, 200 euros pour faire Irun-Bayonne, ce qu'on fait en 2 euros en bus. Et voilà. Et puis les choses se sont tendues, et le groupe, le collectif d'accueil citoyen de la petite maison à la Cassita à Irun, s'est un peu cassé la figure. C'est-à-dire que les gens continuent à faire des choses, mais tout le monde s'est engueulé, en fait. En gros, pour le dire vite, c'est comme ça que ça, le collectif... C'est la vie des collectifs, et c'est normal. Et ils vont retrouver un élan commun, et c'est probable. Mais ça a été quand même très violent et très triste, en fait, parce que ça abat une énergie. Et là-dessus, bah, les gens sont arrivés à Bayonne, via soit le pont encore, plein de méthodes assez rigolotes de passer le pont et la frontière, dont une dont on peut parler maintenant parce qu'elle est, ça y est, elle a vécu et on ne la reproduit pas, c'est qu'il y avait tout un trafic de gilets jaunes avant le temps des gilets jaunes et d'outils, vous savez, quand on travaille à la mairie, en fait, pour ramasser les feuilles, enfin, ces engins qui servent à souffler les feuilles, à les pousser plus loin, quoi. Et en réalité, il y avait tous les matins un noir qui faisait ça sur le pont. Et donc, les flics qui étaient en civil de l'autre côté ne le repéraient pas, parce que pour eux, c'était la même personne qui passait le pont. Donc, comme ça, beaucoup de gens sont passés comme ça. Ça a duré pendant 6 mois, quelque chose comme ça. Donc ça, et nous, en voiture, on ramenait les outils de l'autre côté, etc. Bon, il y a eu un enthousiasme. Il y a eu un enthousiasme au-delà du fait que ça marchait, bien sûr. Il y a eu aussi beaucoup d'enthousiasme commun, en fait, partagé, tout ça. Et puis, bon, et puis après, je vous dis, les passeurs. Et là, ça a été compliqué parce qu'on s'est fait menacer par les passeurs, en fait. Bon, bref. Les gens sont arrivés à Bayonne, de fil en aiguille. Et à Bayonne, le maire de Bayonne, qui est un maire UDI, de culture catholique, on va dire, de culture catholique, voilà, il s'appelle Jean-René Etchegaray, et qui a dit, mais c'est pas possible, en fait, il y a 100 personnes dehors, à la gare routière, ils attendent de prendre un bus pour, mais moi, c'est juste pas possible. Et ce qui est... Et alors, il a eu, évidemment, immédiatement, en quelques heures, il a décidé de changer la gare routière, de réquisitionner un local. Il en a réquisitionné un, deux, une ancienne école qui était en travaux pour devenir, je ne sais pas quel immeuble, pour je ne sais pas quoi. Il a réquisitionné un endroit à côté de la gare. Il a changé la gare routière. En 2 heures, il avait changé. Il y avait un décret municipal, comme quoi la gare routière. Parce que pour lui, en fait, il disait il faut que les gens arrivent à l'endroit où tout de suite, ils vont pouvoir se poser. Et il a mis la gare routière à l'endroit de ce lieu qu'il a appelé Paucha, en basque, la pause, hein, un repos, une halte, etc. Et il n'a pas voulu non plus donner de temps défini. Ça veut dire, il dit, bon, les gens restent entre 3, 5, 6 jours, mais si jamais ils sont en panne plus longtemps, ils peuvent rester plus longtemps. Et s'ils veulent partir tout de suite, évidemment, ils partent tout de suite. Et il a même participé à la... Alors, les bus, Flixbus, la compagnie de bus, c'est Flixbus. Et Flixbus refusait, alors même que les gens avaient des billets de bus, les refusaient dans les bus. C'est-à-dire, non, contrôle des billets, ça ne suffisait pas, donc contrôle des papiers. Et ça, c'est absolument illégal. Et donc, il s'est opposé à ça, physiquement. On a la vidéo, il est devant le bus, et il dit, bah, vous démarrez avec... vous me passerez sur le corps, en fait, mais vous ne démarrez pas si vous ne prenez pas ces gens dans le bus, parce que c'est, ce que vous faites est illégal. Et oui, le maire, et il a gagné d'ailleurs, puisqu'il a porté plainte contre la compagnie Flixbus, et évidemment, c'était illégal, il avait raison. Alors, il est avocat de formation, alors il se régale, et là aussi, il y a un enthousiasme. Il y a un enthousiasme. Et lui, il dit une chose, j'avais relevé sa phrase. Il dit, mais enfin, le problème, c'est pas que je règle à moi seul, je vais pas pouvoir régler à moi seul les problèmes géopolitiques d'un espace comme l'espace européen. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est pas que je me fasse ou pas une idée sur les raisons qu'ont tous ces gens de quitter leur pays, on s'en fiche. Le problème, c'est pas que j'offre à une centaine de personnes sans abri un abri temporaire et décent. Le problème, c'est juste ça, c'est que les autres le fassent pas. Et en fait, voilà. Et donc, ce lieu est aujourd'hui la mairie qui offre les 2 repas par jour, le collectif citoyen qui s'est créé en association depuis pour qu'il y ait un peu du cadre, etc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadre. Voilà ce qui s'est passé. Et là-dessus, qu'est-ce que je peux... Ah oui, quelque chose d'important, je crois. Ça fait des années qu'on accueille. Là, en l'occurrence, à la frontière, on accueille de plus en plus. Et ça fait quelques mois, ou peut-être ou même un peu plus, que, comme tu le disais, non seulement c'est difficile de circuler à l'intérieur de l'espace Schengen, mais c'est difficile de circuler à l'intérieur d'un pays, d'une ville à une autre. Et on se retrouve, en fait, notre quotidien, et c'est très, très compliqué, parce que si on y prend garde, et moi, j'y fais très attention, et ma lutte la plus grande, c'est de ne pas prendre mon téléphone dans la journée, ou en tout cas à certaines heures de la journée, de le poser. Mais c'est vrai, hein, c'est pas du tout... parce qu'en fait, je sais pas, ça doit être 15 fois par jour que j'ai un appel pour ma femme est à Irun, ou ma femme est à Bilbao, ou quelqu'un... est là et il voudrait aller là, et est-ce qu'il y a quelqu'un pour héberger à Bordeaux ou à Toulouse, ou est-ce qu'il y a un squat qui s'ouvre, etc. Et en fait, notre job, j'ai l'impression, plus que d'accueillir, en tout cas là où je suis moi, c'est de faire passer, mais de pas du tout faire passer cette frontière qui serait encore celle qui est passable d'un délit de solidarité, mais de faire passer d'une ville à une autre, d'une personne à une autre, d'un conseil à un autre. Même ça, d'un conseil à un autre. C'est un peu le peu qu'on fait. Et alors, à côté de cet accueil qui est collectif, hein, qui à Bayonne, en tout cas, toujours d'actualité, ça fait un petit moment, ça faisait 2 ans, on va dire, 2 ans, je pense, que des personnes, des individus réunis en collectif citoyen, plus ou moins organisés, plutôt moins qu'organisés, voulaient accueillir et accueillaient, et ils le font, ils continuent à le faire chez eux, à la maison. Et parfois, c'est des décisions, vous savez, c'est des décisions qui ont commencé à être prises en 2015, au moment de la plage, du petit garçon sur la plage, etc. Des fois, ce sont des décisions qui sont prises en famille, très réfléchies, très mûries. Des fois, c'est des décisions personnelles. Des fois, on est très, très, très ému par la décision d'accueillir quelqu'un chez soi. Des fois, on est très, très content que nos propres enfants rencontrent d'autres enfants. Et c'est, voilà, c'est... Et voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui. Oui, il y a 6 mois, je me remarquais que les coups de fil étaient passés d'Espagne. C'était des, pour moi en tout cas, les coups de fil que je recevais, c'était des coups de fil passés d'Espagne, c'était des Guinéens qui étaient en route. Ça recommence là un petit peu maintenant, parce que pendant un certain temps, les jeunes Guinéens sont moins partis, mais j'ai l'impression que ça recommence. Et puis après, il y a 2 mois, c'était les familles camerounaises et tchadiennes qui demandaient de l'aide, là, très concrètement, pour aller en Allemagne. Et puis maintenant, eh bien, ce sont même des jeunes qui sont déjà arrivés dans certaines villes et qui ont été évalués et qui n'ont pas été reconnus mineurs, qui demandent de l'aide et surtout juste de la protection et de l'abri. Voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que nos journées y passent. Si on n'y prend pas garde, nos journées y passent. Bon, moi, je fais attention qu'elles n'y passent pas pour plein de raisons, mais surtout pour plein d'autres raisons. Mais la raison principale, c'est que ça crée une forme de folie, hein, et une forme de folie particulière qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps, qui est qu'en fait, on croit qu'on peut. On croit qu'on peut quelque chose. On finit par croire que tout seul, on peut quelque chose. J'exagère exprès. Hein. Mais on finit par croire qu'on a le pouvoir de faire quelque chose. Et l'élan de sauver quelqu'un, l'élan de faire quelque chose pour quelqu'un, c'est un élan qui peut devenir le contraire de l'élan très, très vite. Aussi vite, ça se retourne. C'est des histoires qu'on a pu voir. Ce sont des histoires qui peuvent se retourner extrêmement vite. Et je me disais, c'est un tout petit peu, j'exagère tout évidemment, mais je parierais que les identitaires là au jour rouge dans les montagnes, quand ils sont en train d'empêcher les gens de passer, c'est quelque chose qui ressemble à de l'élan qu'ils ont aussi et un sentiment de puissance aussi. Du coup, un élan, ça ressemble à n'importe quel élan. Et c'est pour ça qu'on a besoin de médiatisation, de tiers, d'institutions, de droits. Et on en manque cruellement. On manque incroyablement de tiers dans ces histoires d'accueil à domicile, dans les maisons et chez nous. Mon élan a hébergé et a accompagné. C'est une drôle de façon, même si je me suis armée intellectuellement pour essayer de déjouer ça, évidemment. C'est un jeu collectif, évidemment. C'est quand même partir toujours du principe que je sais un peu plus que l'autre, celui qui est l'objet, évidemment, de l'aide, mais aussi celui qui veut aider avec moi. Et c'est très tentant, en fait, tellement on n'a pas le pouvoir que dès qu'un petit bout s'en présente, de l'attraper. C'est quelque chose contre quoi je me mets en garde terriblement. Parce que le pouvoir, sa spécialité, c'est quand on l'a un peu, on le veut en entier et ça devient terrible. Et c'est comme ça que plein de collectifs ont explosé en route. Alors bien sûr, hein, celui d'Iroun par exemple, ils vont se reconstituer, ils évoluent, tout le monde finit par... voilà. Et moi je me dis que dans cet accueil qui est magnifique, et on ne va pas... évidemment, on s'en réjouit parce que... il y a un très grand enthousiasme. Et nous, par exemple, dans une petite ville comme Bayonne, il y a 200 personnes qui sont logées durablement et solidairement. Donc, on va commencer à trouver que c'est nul. C'est très, très bien. C'est très, très beau. Mais se dire quand même que sans tiers et sans institutions et sans repères qu'on se donnerait, même si on n'a pas les institutions, ben, sans repères, ça serait... Moi, je plaiderais bien pour ne pas essayer d'échapper à tout prix aux imperfections, pour ne pas trop savoir. Il n'y a pas de bonne solution, parce qu'il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y en a pas. Et partir de cet exemple-là, je donne un exemple, c'est un gamin qu'on héberge en ce moment. Il a 16 ans, il aura 17 ans en avril. Le temps commence à passer, il grandit. Il n'a pas été reconnu de sa minorité à Bordeaux, c'était à Bordeaux. Donc il s'est retrouvé dehors, on l'a hébergé. On l'a si bien hébergé que tout de suite il s'est mis à chanter dans un groupe de slam, il danse, il est scolarisé, il réussit bien à l'école, il va passer son brevet. C'est vachement bien. Il a plein de copains, il est à Bayonne. Il passe devant le juge des enfants demain. À Bordeaux, il y a deux solutions. Soit le juge des enfants, c'est le recours et c'est le dernier appel, il n'y en aura plus derrière. Soit le juge des enfants le reconnaît mineur, et dans ce cas, évidemment, que le collectif, même tout en peine qu'il soit, va le laisser partir, et lui-même, il n'est pas fou, il sait très bien que c'est son intérêt, il partira, mais c'est vrai qu'il perdra probablement la scolarisation, en tout cas le niveau de vie et la qualité de vie. Ça, c'est quasiment certain, parce qu'il va se retrouver à Bordeaux, sans doute dans un foyer où il faut quitter même le samedi à 7h du matin pour errer dans les rues, avoir froid, etc. Bon, donc il sera reconnu mineur avec plus ou moins de chances. De plus en plus, c'est moins de chances. Mais enfin, jusqu'alors, on pouvait imaginer qu'il aurait un contrat jeune majeur et qu'il aurait un titre de séjour pour la poursuite de ses études à la suite de cette reconnaissance de minorité. Bon, c'est même plus tellement gagné. Mais n'empêche que c'est quand même un truc... Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le garde ? Parce qu'on sait faire, visiblement on sait faire, ou pas. Lui-même est très tenté, évidemment, de rester et de ne pas partir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais voilà le genre de problème. Et puis, s'il n'est pas reconnu mineur, qu'est-ce qu'on fait ? Il reste à la maison, comme il est là, ou il tente sa chance dans un autre département ? Dans lequel il faut aller vite parce qu'il a bientôt 17 ans et que voilà. C'est le genre de problématique, il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas de bonne solution parce qu'il n'y a pas de solution. Donc il faut simplement négocier, discuter, réfléchir avec lui. Alors lui, au début, il était très clair. Lui, au début, il était très clair. Il disait je tente ma chance dans un autre département, dans tous les départements, tant qu'il n'y a pas le fichier national encore en route et tout ça, j'y vais, je vais partout, je vais à Gien, je vais à Rodez, je vais partout. Et puis la vie est douce. Là maintenant, il voudrait avoir un peu plus de réseau 4G sur son téléphone. Il danse super bien, du coup, il a des dates. C'est compliqué pour lui aussi de choisir. Et le laisser choisir complètement aussi, c'est bien, évidemment, c'est ce qu'on fait. Mais ça aussi, c'est un peu difficile pour lui. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui dire, t'es pas en dette, tu t'en vas, s'il faut que tu partes. Et moi, je pense qu'il faut qu'il parte, mais ça sert à rien que je pense ça. Il n'y a pas de bonne solution. Ça, c'est un exemple. Et voilà, mais moi, si je pense que, non pas qu'il faut qu'il parte, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais si je fais le pari de l'institution à tout prix, même si elle est défaillante, même au risque de la rappeler à l'ordre sans arrêt, c'est ce que je fais pour plein d'autres gamins, savoir, il n'est pas scolarisé, il n'a pas ci, il n'a pas ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est très difficile, hein. C'est plus difficile encore que d'héberger quelqu'un chez soi, parce qu'on n'a pas les gratifications qu'on a quand on héberge quelqu'un chez soi et qui nous aime beaucoup et qui nous appelle maman et tout ça. Mais je trouve que c'est un travail qui mérite encore d'être tenté, de la rappeler à l'ordre l'institution tant qu'on peut le faire au cas par cas. Parce qu'en fait, moi, je crains énormément ces retours d'élan, là, ces inversions dont on parlait. Parce que quand ces élans ne sont pas cadrés par quelque chose qui va les frustrer un petit peu, ça peut être au moins des transferts, des ratages et des quiproquos, mais ça, c'est pas le plus grave. Mais en tout cas, des dettes affectives immenses qui peuvent faire des dégâts qui produisent exactement le contraire de ce qu'on a voulu produire. En fait, personne n'est venu chez moi dans ma maison parce que c'était ma maison. Et ça, au moment où on en est là de nos initiatives d'accueil et d'hébergement, c'est quelque chose qu'il faut répéter tout le temps aux gens. Personne n'est venu chez toi parce que c'était chez toi. C'est vraiment frustrant, hein, parce qu'on finit par croire qu'avec tout son élan d'accueil qu'on a, que chez soi, c'est vachement bien. Mais non, ma maison, c'est un peu mieux que rien, mais pas mieux que ça, pas si bien que ça non plus. Et je pense à un colloque qui s'était tenu à Paris 8, où je n'étais pas, mais on m'avait raconté. Je crois que c'était il devait y avoir peut-être Michel Agier. C'était le moment où Paris 8 accueillait des réfugiés à l'intérieur. Et un jeune demandeur d'asile qui avait été débouté, je crois qu'il était éthiopien, avait pris la parole et avait dit « Merci de nous avoir pris pour vos enfants. Nous vous remercions de l'hospitalité, mais cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qu'on veut. » Et je crois que cette phrase-là... Alors, on est peut-être dans un temps numéro 2, là, dans ce que je raconte des questions d'accueil et d'hospitalité, mais on est dans un temps où il faut le penser, ça, parce que ça va nous retomber dessus. Et comme on n'a aucune institution et qu'on a tout ce qui glisse dans les droits, si en plus les citoyens solidaires commencent à se laisser aller à des élans qui se transforment en des choses qu'on ne maîtrise pas, ça va être compliqué. Moi, je vois venir ça dans nos petites villes, là, à des niveaux très, très simples, en fait, de voisinage, très compliqué.
Non, mais ça tombe, enfin, merci de tout ton récit, mais ça tombe bien parce que ton temps 2, c'est un peu là où moi j'avais envie de commencer, mais enfin, tu as dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis très d'accord, et notamment sur. Donc, je vais juste peut-être rebondir sur quelques éléments que tu as donnés. Et puis, c'est pas très construit tout ça, puisqu'on avait envie que ça soit une conversation. Et puis, voilà, on est, je pense, prise en effet dans des expériences militantes qui sont. Enfin, moi, je reviens tout juste de Grande-Synthe, donc que vous devez connaître, où justement, bah, y a un maire qui a essayé de tenir un peu comme ton maire de Bayonne, sauf que là, c'est très dur parce qu'il a tellement été puni par l'État français, que donc c'est Damien Carême qui avait notamment tenu pour que le camp de la Linière se maintienne. Donc c'était un lieu d'accueil quand même un petit peu plus décent que ce qu'il y a actuellement, dont je vais brièvement vous parler, parce que voilà, je pense qu'il faut aussi... Enfin, j'aimerais aborder la question un peu autrement, mais bref, toujours est-il que voilà. Du coup, je suis un peu... Vraiment, j'en reviens tout juste, donc je suis un peu... Et puis ce que tu as dit me donne plus envie de rentrer en conversation que de vous présenter un exposé qui de toute manière ne peut pas tenir parce que tout bouge tout le temps, donc on est obligé de repenser constamment ce qu'on pensait être juste ou ce qu'on pensait. Et notamment quand, là, depuis quelques années, cette notion d'hospitalité revient beaucoup et que je pense qu'elle doit vraiment être questionnée fortement, précisément pour ce que tu as dit et ce petit plaisir que beaucoup de personnes ont actuellement à accueillir, mais sans se demander ou se demandant peut-être trop peu souvent ce que c'est cet accueil. Ce qu'on exige en accueillant, qu'est-ce qu'on cherche dans l'accueil de l'autre, quelle place on fait à cet autre, et comment est-ce qu'avant de trouver la solution pour l'autre, on se met véritablement à l'écoute de ses besoins. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se produit dans un glissement entre un accueil qui a aussi une dimension politique et de lutte, et un accueil qui tend vers une charité un peu étrange où... sur les blogs des plateformes citoyennes qui sont formidables, notamment celle qui existe à Bruxelles depuis quelques années, qui permet quand même que depuis 2 ans, plus aucun exilé, puisqu'on emploie aussi ce terme-là par choix, dont je vais vous parler, mais aucune personne exilée ne dort dans le parc Maximilien, alors que c'était vraiment c'est parti d'un citoyen qui a réussi à créer cette plateforme, et aujourd'hui, il y a je ne sais combien d'inscrits, et c'est vrai que c'est une organisation incroyable, qui est remarquable, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu heurté quand on lit des témoignages parlant de ces personnes que d'autres personnes accueillent comme leur petit protégé, qu'elles ont emmené au théâtre, alors qu'en fait, il n'a peut-être pas envie d'y aller. Enfin, y a toute une fabrique étrange de l'autre accueilli qui est, je crois que c'est très important qu'on en fasse un problème, enfin, qu'on se questionne, parce qu'effectivement, il n'y a pas de bonne solution, mais je crois qu'il faut vraiment l'entendre, je pense, comme tu l'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution, c'est-à-dire la solution qui vaudrait pour chacun. Mais du coup, ça veut dire que chaque trajet de vie, chaque rencontre est singulière et chaque tentative d'agir avec un autre est singulière, comme avec tout autre égal, en fait. Je me souviens d'une phrase qu'avait dit Étienne, je crois justement dans un... C'est que oui, la solution est technique, mais quelle était la question ? Quelle était la question et quelle est la question à chaque fois, en fait, que ces personnes qu'on accueille ou qu'on rencontre nous posent ? Et il y a une autre chose que tu as dite sur laquelle je voudrais revenir parce que c'est pour moi aussi très important la question des institutions, et notamment quand on reprend la fonction même de l'institution, enfin sa définition, ce qu'elle... Donc la philosophe a recours à la philosophie, mais c'est Merleau-Ponty qui, dans ses cours au Collège de France, l'institution, la passivité, dit ça sur l'institution. L'institution, c'est faire durer des expériences. Je le raccourcis parce que c'est ça, donner de la durée aux expériences. Et l'expérience, c'est quoi? C'est ce qui produit quand il y a de l'hétérogène, donc c'est ce qui se produit dans la rencontre. Les institutions, elles sont censées permettre que nos rencontres durent comme des rencontres et pas comme des irréprocités de l'accueillant qui reçoit le petit protégé. Donc voilà, je crois que vraiment nos institutions, si on se souvient de ce qu'elles doivent nous permettre, y compris en termes d'inscription d'une égalité démocratique et d'une égalité pour tous, elles sont extrêmement précieuses à constamment, comme tu as dit, solliciter à nouveau. D'autant plus que, une autre chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à l'Aquarius, je reviens au tout début de ton intervention, parce que c'est extrêmement intéressant ce qui s'est produit. Je ne sais pas si vous avez suivi exactement tout le trajet en fait, incroyable de cette institution civile flottante, puisqu'on pourrait dire que c'est ça, l'Aquarius, c'est quand même une initiative citoyenne qui n'a pu exister que par le soutien des gens. C'est véritablement ce qu'on appelle une institution civile. Elle a existé comme telle, et elle a été arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la qualification de bateau pirate. Le pirate, c'est ce qui, dans toute notre histoire, depuis Cicéron, échappe à l'imaginaire juridique. C'est-à-dire, on appelle pirate ce que Cicéron appelait l'ennemi du genre humain. C'est-à-dire, il n'y a pas de terme pour cet ennemi maximal. Il n'est pas simplement hors la loi d'une législation, c'est le hors la loi L majuscule. Donc, on va l'appeler pirate. C'est extrêmement intéressant de voir comment on a réussi, par tout un passage par le droit international, à nommer l'Aquarius comme bateau pirate, alors que finalement, si on regarde, c'est précisément parce qu'il était dans un ultra-respect de la légalité qui est censée celle à laquelle il doit répondre, c'est-à-dire les conventions maritimes et le droit international. C'est parce qu'il a absolument respecté le droit international qui interdit de ramener une personne secourue en mer dans un port non sûr. Donc l'Aquarius a refusé de ramener les personnes secourues en Libye qui venaient d'être qualifiées par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, de port non sûr. Et c'est parce qu'il a respecté ça que le Panama, qui est une nation, lui a retiré son pavillon. Or, quand une nation retire son pavillon, le droit de circulation est perdu. Donc la nation a la priorité sur... Enfin, le droit national a la priorité sur le droit international, puisque quand on n'a plus de pavillon et plus de nation, on ne peut plus circuler. Donc on devient pirate. Enfin, c'est une espèce de... C'est complètement... c'est de la production de ce que Laurence Blisson, qui est la présidente du syndicat de la magistrature, appelle la légalité. C'est-à-dire que ce n'est pas légal, ce n'est pas illégal, c'est de la production par le droit d'un hors-droit qui fait droit. Enfin, c'est complètement dingue. Et c'est pour ça que nos institutions... Elles sont à convoquer parce que le recours au droit international à ce moment-là, s'il y avait eu appel au commissaire international, on aurait pu faire quelque chose contre la nomination de pirate, mais on a, voilà, ça a arrangé tout le monde, ça a arrangé l'Italie, ça a arrangé l'Europe, ça a arrangé, donc il ne circulera plus. Mais c'est un retournement très intéressant et c'était... Tu veux dire quelque chose, peut-être ?
Je me disais que cette inversion c'est une inversion en fait entre le nom et enfin c'est parce que il respectait le droit justement international, les conventions, que on le nomme pirate. Et en réalité, ce qui se passe là dans la nomination, ça va pas aussi vite dans ce qu'on pourrait appeler des valeurs morales, en fait, qui sont encore... Enfin, c'est pas si ancien, on a l'impression que tout va très vite, on oublie les choses, mais lorsque ce jeune homme a sauvé un gamin qui pendait là du balcon, vous vous rappelez, après, on peut critiquer le fait que ça a été médiatisé comme ça a été médiatisé dans les circonstances dans lesquelles c'était, mais en réalité, ça a été médiatisé aussi parce qu'il y avait une réelle émotion et une réelle admiration de l'exploit qui va, sans réfléchir, sauver quelqu'un. C'est-à-dire, on s'est tous dit, tiens, est-ce que je ferais ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Bien sûr que non, mais pas physiquement. Mais enfin, est-ce que l'élan, je l'aurais? Enfin, c'est ça la question. Mais en réalité, c'est parce que moralement, je ne sais pas si on peut dire moralement, mais y a quelque chose qui nous pousse plutôt à encore à spontanément avoir envie de sauver plutôt que de ne pas sauver quelqu'un. Donc c'est comment dire, une sorte de loi non écrite, celle-là, une loi qui ne serait pas écrite, qui serait de l'ordre de la morale, des valeurs, je ne sais pas comment dire, mais la loi non écrite, en tout cas, elle n'est pas trop à l'envers, on dirait. Et puis dès qu'elle s'écrit, elle s'écrit à l'envers, puisqu'on nomme pirate le bateau qui fait en effet ce qu'on aimerait bien pouvoir faire et qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire. Et ça, c'est étonnant parce que le glissement ou l'inversion, elle n'est pas encore celle des lois non écrites. Je ne sais pas les nommer, à part dire morale ou je ne sais quoi. Enfin, des valeurs qui seraient celles dans lesquelles on vit, la plupart d'entre nous en tout cas.
Oui. Oui, après, c'est vrai que tu as parlé des gens dans les montagnes, mais je ne sais pas trop par quelle loi ce rejet radical de l'autre, il est aussi très, il fait aussi partie des lois non écrites, la loi de le racisme, le rejet de l'altérité parce qu'elle est altérante et parce qu'elle altère nos valeurs, parce qu'elle altère nos manières de faire et parce qu'elle nous altère, elle est insupportable alors qu'elle est notre chance d'existence. Mais l'existence, c'est toujours être un peu hors de soi. Donc l'altération, ce qui nous met dehors, c'est plutôt une chance d'exister plutôt que d'être dans des logiques de survie et de protection dans lesquelles on est constamment assigné, en fait. Et moi, en venant jusqu'ici dans mon train depuis Grande-Synthe et de ce que j'y ai rencontré, je reprenais le titre en fait, de notre rencontre que tu as appelé la langue de l'autre, le retour, parce qu'on ne l'a pas fait la fois dernière, enfin, j'imagine que c'est ça. Mais du coup, ça, en même temps, voilà, je m'accroche souvent aux mots avec lesquels j'arrive. Du coup, là, la langue de l'autre, le retour. Et je me disais, justement, c'est ça notre problème aussi avec la question de l'autre et de l'hospitalité. C'est qu'on a tendance très souvent, quand on pense la langue de l'autre, c'est-à-dire la langue de l'accueillant, qui va en effet nommer plus justement le migrant. Enfin, ce que tu disais juste avant, voilà, il y a ce mot migrant. Est-ce qu'il est le bon mot? Est-ce que à Calais ou dans les zones, je ne sais pas comment c'est à Bayonne, mais en tout cas à Calais et les Hauts-de-France, depuis 2015, le terme communément choisi, c'est les exilés, précisément pour sortir de cette séparation entre le migrant économique et le réfugié politique et se dire qu'il n'y a pas une priorité de l'un sur l'autre et que ce sont des personnes qui sont en exil, elles sont parties et elles n'ont pas forcément vers un pays puisqu'au début, elles pensent aller quelque part et puis finalement, elles ne peuvent pas y aller. Certaines continuent à vouloir y aller, donc très souvent c'est l'Angleterre, et pas parce que ces personnes sont complètement fous et ont un fantasme absurde de l'Angleterre, c'est parce que très souvent, en Angleterre, ils peuvent travailler, ils ont de la famille, et qu'effectivement, ils ne sont pas reçus comme ils sont reçus en France. Donc c'est pas par pur fantasme non fondé qu'ils veulent aller quelque part. Et quand quelqu'un veut aller quelque part, ben c'est très compliqué de l'en empêcher. C'est depuis toujours, les gens circulent et les gens vont là où ils ont envie d'aller et ils reviendront là où ils ont l'impression qu'ils pourront franchir cette frontière. Donc on a démantelé la jungle, mais les gens sont toujours à Calais parce que c'est l'endroit depuis lequel ils peuvent rejoindre l'Angleterre. C'est ça depuis des années, c'était ça avec Sangatte. On a voulu détruire cet endroit, les gens sont revenus, on a détruit la jungle, les gens reviennent. Sauf que là, en effet, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de lieu commun, donc il n'y a plus de lieu au sein desquels ces personnes-là, qu'on nomme nos hôtes au sens de ceux qu'on accueille, étaient eux-mêmes des hôtes. Et nous, ça a été vraiment le point de départ de tout ce travail-là avec Étienne Tassin et cette nomination de la jungle et la ville, d'inverser en fait, que finalement, au sein de la jungle, se rencontraient bien plus d'actes de civilité que dans le centre-ville de Calais, où la première fois où nous y sommes allés, avait lieu une manifestation du PEJIDA, qui est le parti européen d'extrême droite anti-migrants, donc une espèce de sauvagerie urbaine à l'œuvre. Et allant dans la jungle, il était impossible de pénétrer dans cet endroit sans recevoir immédiatement l'invitation par une des personnes résidant dans la jungle de venir chez elle, c'est-à-dire sa petite tente ou sa petite cabane pour boire un thé. Et c'est quand même assez fou de se dire qu'en fait, c'est nous qui sommes accueillis par eux dans des codes qui nous déplacent et pas du tout l'inverse. Et ce qui, pour moi, est d'autant plus flagrant qu'effectivement, et sans dire du tout cette chose horrible qui est « nous sommes tous des migrants », effectivement, je n'ai pas de maison. Je suis nomade depuis presque 12 ans. Donc, je n'ai pas d'endroit où je peux accueillir quelqu'un. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Mais je ne vais pas du tout pour autant faire une espèce d'égalité de migrante. Mais c'est juste, c'est très étonnant de me dire qu'au final, quand on dit dans nos maisons, dans, ou nos enfants, ou, en fait, c'est que moi, je ne peux pas dire ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je me suis retrouvée très régulièrement à être accueillie par ces personnes-là. Et là, c'est étrange de reprendre cette conversation de c'est quoi l'accueil, alors qu'il y a un peu plus de 24 heures, j'étais accueillie au fond d'un bois, à Grande-Synthe, par ces jeunes hommes pakistanais qui, en fait, n'ont vraiment plus rien et qui sont obligés de se cacher loin dans les bois parce que maintenant, ce que je te disais, maintenant que c'est l'hiver, les feuilles des arbres tombent. Donc, comme il ne faut pas que les personnes aient peur quand elles font leur promenade dominicale dans le bois du Puy-Touc, il faut qu'ils se cachent loin parce que quand on les voit à travers les feuillages, les gens ont peur. Et c'est véritablement une chasse à l'homme, hein, ce n'est pas du tout de l'exagération. C'est extrêmement violent. Des uns et des autres, des autorités, mais aussi des citoyens. Et c'est normal parce que c'est très étrange de trouver des jeunes hommes comme ça dans la forêt. Enfin, c'est vraiment un imaginaire très bizarre, alors qu'il y a de toute autre manière d'accueillir les personnes et de leur offrir un espace décent qui juste enlève cette espèce de sauvagerie et d'imagerie qui se construit, qui s'alimente en fait. Donc il y a des gens dans la forêt, ça fait peur, on n'y va plus. Donc si on les croise, on a peur, parce que si on n'y va plus, c'est bien qu'il y a des histoires, tu as dit les fuyards, mais l'ensemble de terminologie qui est employée pour décrire ces personnes, elle est extrêmement... Elle construit un imaginaire, elle construit la peur, et elle construit surtout l'impossibilité de faire face à cette peur ensemble. C'est pour ça que les institutions, elles sont importantes aussi. C'est-à-dire que oui, ça peut être inquiétant de se retrouver jeune femme dans la forêt en train de faire du vélo et de trouver une dizaine de jeunes hommes face à soi. Oui, ça peut être effrayant, mais en fait, ça ne peut être que effrayant vu qu'aucun autre dispositif n'est mis en place pour qu'il y ait rencontre. Et la manière dont les gens sont accueillis aujourd'hui à Grande-Synthe, c'est soit du non-accueil et donc ils se réfugient dans les bois... lointains. Soit ils sont accueillis, là actuellement, maintenant qu'il n'y a plus le camp de la Linière, ils sont accueillis dans deux endroits. Donc l'un, c'est le gymnase, un gymnase qui a été converti en grand lieu de matelas, voilà, de dortoir. Donc il y a 150 jeunes hommes kurdes qui y résident. Et un autre endroit qui est le centre de loisirs dans le bois de Puy-Touc, où là, c'est plutôt les familles, mais toujours des Kurdes, qui sont accueillis plutôt, parce que c'est plus sur un endroit où ce sont des personnes kurdes parce qu'elles ont plus d'argent et qu'elles ont plus d'argent pour payer les passeurs. C'est tout simplement la situation. Et en fait, je pensais à ça, ce que je te disais, c'est que ma journée de samedi a été très renversante, justement dans cette idée du retour, enfin, renverser aussi qui est l'hôte de qui est qu'on a été d'abord dans ce gymnase. Et donc là, on est accueilli par le personnel formé qui a des solutions technique à un problème et qui vous invite à venir voir. Vous voulez les voir ? Donc on nous invite à aller les voir, ces jeunes hommes qui sont allongés, qui en fait ont cette chose qui est la plus terrible dans l'expérience migratoire, qui est l'attente, c'est-à-dire le fait de n'avoir rien à faire, d'avoir absolument plus aucune occupation, qui est quand même ce pourquoi les uns et les autres nous levons le matin, pas juste pour manger ou pour dormir, on se lève parce qu'on a une occupation, qu'on a une passion, qu'on a un rêve, qu'on a une activité. Là, plus rien n'est possible de ça. Donc ils sont allongés et on vous invite à aller les voir, c'est-à-dire à les visiter, à regarder, quoi. Et eux, ces personnes qui vous invitent à aller voir les autres, sont nommés les accueillants. Ce sont eux les instances accueillantes. Quand vous rencontrez les personnes dans le bois de Puy-Touc, donc là on allait, puisque justement tu as dit tout à l'heure le bouche à oreille, donc on se fait passer les choses. Donc là, par un jeune homme pakistanais qui réside à Emmaüs, un responsable d'Emmaüs a su qu'il manquait deux sacs poubelles parce que ces personnes ont juste envie de faire bien les choses, donc pas de balancer leurs déchets, donc de les mettre dans des sacs poubelles pour que le service de voirie qu'ils ont repéré puisse récupérer. Donc c'est très organisé tout ça, donc ils font savoir qu'ils ont besoin de sacs poubelles, on leur amène des sacs poubelles, et effectivement quand ils voient des personnes... Ça n'arrive jamais qu'on ne vous invite pas à venir prendre un thé parce qu'au moins, pour une fois, on va pouvoir se parler et se raconter et juste partager un peu plus qu'une boîte de conserve distribuée ou un sac poubelle donné. Donc, c'est toujours très important d'aller prendre un thé ou un temps et un silence, même de s'asseoir et d'être en silence avec eux. voilà, juste de reconnaissance de que c'est possible de leur donner cette dignité d'être eux les accueillants. Donc c'est pour moi en tout cas des choses qui m'importent beaucoup. Et de voir comment est-ce qu'ils se reconstruisent des espaces d'accueil pour eux et pour nous, et très souvent par la musique, qui est, ils ont toujours leur musique, et c'est pas juste leur musique du pays, c'est que leur musique est faite des exils. C'est une musique qu'on entend nous aussi. On est beaucoup plus proche que cette fabrique de l'étranger dans laquelle on nous met constamment. Et ce jour-là, du coup, on est ensuite allé voir d'autres amis pakistanais. Et en fait, ce qui s'est passé, qui est pour nos histoires de langue de l'hôte, c'est qu'on a commencé à parler en anglais, comme toujours. Et puis, j'étais accompagnée par une collègue qui est française, mais qui vit en Argentine, donc qui est prise entre deux langues, que sont le français et l'espagnol, et le porteño. Et elle s'est mise en fait à parler en espagnol, je ne sais pas trop pourquoi, parce que d'un coup c'était plus simple dans ce moment un peu mal à l'aise où on ne sait pas trop comment se parler les uns et les autres. Donc elle s'est mise à parler en espagnol et un de ces jeunes hommes qui était en fait passé par l'Italie a reconnu dans son espagnol un peu d'italien, donc il a commencé à lui parler en italien. Et en fait, un autre a raconté que son cousin était en Grèce et moi, je viens parfois à Athènes, donc j'ai dit deux mots de grec et on s'est mis à parler du coup grec, espagnol, italien, français, anglais. Donc une langue complètement d'européen, en fait, et une langue cosmopolitique, une langue du monde possible, du monde qu'on est en train de construire et qui se construit dans ces expériences de migration et qui fait que la langue de l'autre, je crois qu'on a, si elle est importante à poser, c'est vraiment à la fois dans la nécessité de se remettre en question sur ce nous qui serions les accueillants et qui en fait est pas si simple. Il n'y a pas le bon nous qui accueille et le mauvais nous qui n'accueille pas. Dans le nous accueillant, il y a plein de différences. Il y a la différence de cette personne qui me propose d'aller les voir, et puis il y a les personnes d'Emmaüs, et puis il y a les gens de la plateforme citoyenne, et puis il y a les gens qui appellent mon petit protégé. Enfin, il faut remettre du politique, au sens où il faut remettre du conflictuel dans cet endroit-là de l'accueil et se re-questionner sur la langue de l'autre, non pas comme la langue des uns ou des autres, mais la langue de cet accueil inconditionnel qui n'est pas en fait l'hospitalité, qui est l'égalité radicale, tout simplement. Voilà. Donc je crois qu'il faut réussir à recomplexifier cette chose-là de la langue de l'autre pour pas qu'elle ne soit que la langue de l'hôte avec un grand H, ou le logos de cet hôte qui va dire que l'Aquarius est un pirate, et réussir à trouver ces passerelles pour lesquelles on a besoin, enfin, je suis complètement d'accord avec ta notion de tiers et d'institution, on a besoin de ces tiers, on a besoin de ce qu'a pu être, de ce que peut être l'Aquarius comme institution civile, on a besoin de ce qu'a pu être la jungle comme institution civile aussi, dans le sens où c'était par les gens, même s'il y avait un ensemble d'associations et de corps associatifs, mais la manière dont les gens, les 15 nationalités qui cohabitaient ensemble dans la jungle et s'invitaient les uns les autres à venir chez les uns et les autres, sont des expériences qui ne se retrouvent plus aujourd'hui, précisément parce que ce sont des migrants et qu'il ne faut pas de point de fixation et qu'il ne faut pas que les personnes restent et qu'il ne faut pas qu'elles marquent le territoire ou qu'elles défigurent nos bois. Donc il y a la nécessité de l'inscription collective qui ne peut passer que par des institutions, y compris si c'est des institutions civiles. Voilà un petit peu ce que je voulais...
Sur ce que tu dis de ce qu'on est en tant qu'il y a accueil et accueil, quand on accueille quelqu'un, il y a une grosse question qui se pose souvent dans les accueils, que ce soit de mineurs ou de jeunes majeurs, c'est la question du savoir. C'est la personne qui alors c'est pas forcément celle qui dit mon petit protégé, mais c'est pas loin souvent. Mais même si la personne politiquement n'est pas là, il y a quand même le désir de savoir ce qu'est l'autre. Et je crois que cette égalité radicale dont tu parles, quand on reçoit chez soi quelqu'un, c'est rare. Que la première chose qu'on fasse, c'est d'aller chercher une carte pour savoir exactement le village où il a vécu, le nombre de personnes qu'il y a dans le village, quelle route il a emprunté pour venir, combien de frères et sœurs il a, à quelle date il est né. Enfin bon. Et il y a dans l'accueil, chez les hébergeurs, ce désir de savoir qu'on peut comprendre, qui est légitime, c'est une curiosité normale, et c'est une curiosité et on vit de curiosité, mais qui est... extrêmement prédateur en fait dans les expériences qu'on a pu vivre. Et je me disais ce que tu disais tout à l'heure de l'institution, c'est ce qui permet du temps, ce qui permet de donner du temps à la rencontre, parce que toutes ces questions sur où tu es né, où tu as vécu, quel âge tu as, et, etc., sont des questions auxquelles il est répondu avec du temps, hein, si on a le temps de la rencontre. Et c'est pas dans un moment de fragilité, parce que l'un accueille à une maison quand il en a, et des papiers, et l'autre n'a pas de maison ni de papier, et a une route un peu bancale encore, voilà, on ne sait pas quelle est l'étape d'après, c'est pas à ce moment-là que les choses se construisent forcément, c'est avec du temps, et c'est de nouveau ce temps qui nous manque.
Oui, complètement, et c'est précisément pour ça que l'expérience de rencontre avec des personnes exilées, elle est au-delà d'un problème circonstanciel, elle est quand même en réalité, la possibilité pour nous tous de nous ressaisir en tant que subjectivité politique aujourd'hui, où effectivement l'assignation à l'urgence, et bon, vous le savez, ça s'appelle l'état d'urgence qui est quand même rentré dans notre droit commun, donc un ensemble de nos comportements politiques à nous tous, au-delà de la situation de l'accueil des personnes exilées, elle est beaucoup, comment dire, comprimé aujourd'hui dans la possibilité qu'on a les uns et les autres de se rencontrer et de construire des alliances nouvelles. Et c'est les situations de violence et de pas de point de fixation et de démantèlement que la jungle a connu. C'est aussi ce qu'a pu connaître, ce qu'ont connu les cabanes de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'ont connu toute forme de vie autre où le temps est pensé autrement et en dehors de l'état d'urgence et des problèmes à solutionner vite, où il faut vite des experts pour sortir le nouveau plan de sortie de crise, parce qu'ils ont diagnostiqué qu'il y avait une crise, c'est toute la fabrique de la situation grecque depuis des années, où il y a une crise, il y a des experts, il y a des médecins qui vont sauver ce pays dont on ne sait même pas en fait où est sa maladie, mais c'est quand même toute une fabrique comme ça qui va très très vite et qui nous ôte beaucoup de nos capacités résistantes ou en tout cas d'invention, d'alternatives qui durent. Et il se joue dans ça, il se joue dans les rencontres de toutes ces personnes-là qui viennent d'ailleurs et dans la capacité qu'on a de construire avec elles des expériences qui durent beaucoup plus que simplement le problème migrant.
Oui, le temps file, parce qu'on doit quitter à 9h la salle, donc là on a quand même pour une petite 20 minutes pour ouvrir un peu le débat. De vos commentaires, de vos remarques, peut-être d'expérience aussi, parce que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent échanger là-dessus.
La question que je me posais en vous écoutant sur l'idée, par exemple, du tiers, c'est que c'est un partage entre le comment, effectivement, répondre à une urgence parfois vitale et s'organiser pour permettre qu'il y ait des tiers, etc. Mais souvent, les associations font appel, il faut accueillir dans l'urgence 3, 4, 5, 20 personnes. Donc ça ne laisse pas le temps, effectivement, de ce travail-là. Et je me dis parfois, donc, ça, petit à petit, ça s'organise, les assos se mettent en place, il y a des gens qui se spécialisent plutôt juridiquement, plutôt voilà, dans différents espaces. Et en même temps, quand on fait cette organisation-là, on voit bien ce qui arrive. Ça devient un moment, bah, soit vous accueillez, il y a des lits de solidarité, soit vous accueillez, vous allez dégrever vos impôts. Quoi. Enfin, vous avez un dégrèvement d'impôts, je ne sais plus ce qui avait circulé, je ne sais même pas si ça m'a tellement énervé que j'ai arrêté d'écouter cette info-là. Mais... parce que comme il y a un désengagement, enfin, ça entretient cette organisation-là, qui est bien connue maintenant, parce qu'il y a un réseau associatif qui est assez puissant, effectivement, l'État se dédouane et subventionne ses associations, etc. Enfin, ouais. Cet équilibre-là, je ne sais pas, il me dépasse totalement, peut-être que je ne suis pas assez renseigné. Mais voilà.
Juste une anecdote à ce propos, c'est qu'on juge des enfants il n'y a pas très longtemps à Bayonne, devant un jeune mineur de 16 ans aussi, qui n'était pas reconnu jusque-là mineur, donc c'est le recours devant le juge des enfants. Et ses soutiens étaient, ses soutiens chez qui il était hébergé pour ne pas être dehors, étaient non loin. Et la juge est sortie de sa salle d'audience et elle a dit il y a quelqu'un pour le prendre chez lui, parce que s'il y a quelqu'un, je le reconnais mineur, sinon... Voilà. Et ça s'est fait là, comme ça, sans rien. C'était Alors quelqu'un a dit oui, moi. et du coup, il a eu une OPP, une ordonnance de placement chez l'habitant. Ils ont imaginé un contrat avec l'ASE. Ils n'ont fait aucune enquête sur la personne chez qui allait le gars. Enfin, on ne ferait jamais ça pour aucun enfant qui est placé. On fait des enquêtes, mais même pour aller en vacances, normalement, c'était super compliqué. Il fallait des protocoles, des machins, des contrats et tout ça. Non, là, ils ont imaginé, sur le bureau de la juge, ils ont improvisé un contrat avec l'ASE et la personne qui était là, qui avait sa pièce d'identité, qui a dit « Ok, je le prends chez moi. » Le soir, il était chez la personne, il y est encore. Et de toute façon, il était déjà scolarisé parce que les collectifs citoyens l'avaient scolarisé. Donc, personne ne s'occupe de ce gamin. Voilà. Donc, ça interroge les glissements entre le système D qui fait que les enfants sont chez nous, chez les uns, chez les autres, sans aucune aide du département. Le côté institution, ben, le département s'en occupe, l'ASE plus ou moins bien, plus ou moins institution plus ou moins bonne selon les départements, et là on les embête pour qu'ils le soient. Bon, et là une sorte de ni l'un ni l'autre, quoi. Ça m'a... J'étais furieuse.
Je veux juste dire une chose par rapport à l'exemple. Voilà. Mais non, je pensais en vous écoutant, et c'est très juste, et en même temps, c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a un endroit où ça nous reconvoque aussi à un travail de citoyen qu'on oublie. Enfin, il y a plein de choses, en fait, que quand vous êtes en train d'entrer dans un travail de soutien, de solidarité, ou en fait, qu'on a oublié sur quels sont nos droits sur certains faits. De quoi relève, par exemple, la protection de l'enfance, si c'est du département, si c'est... Enfin, il y a un ensemble de choses où, en fait, des recours existent qu'on ne connaissait pas. Mais ce que je voulais dire, c'était... Moi, vous avez compris, j'ai un peu marqué par l'exemple grec. Mais c'est vrai que se sont créés en Grèce ce que eux-mêmes, donc tout un ensemble de personnes, c'est pas que par rapport à la question migratoire, encore une fois, mais par rapport juste à la question d'un pays en crise, comment on s'organise ensemble. Et je trouvais très intéressant ce que disait, je pense que tu le connais d'ailleurs, ce que vous aviez lancé avec Interdemos, Christos Giovannopoulos, qui est le créateur de Solidarity for All, qui était la plateforme de Solidarity. Ah, vous connaissez ? En tout cas, ce monsieur disait que justement, il appelait ça des institutions alternatives. Donc, ce n'était pas du hors institution, mais institutions alternatives, parce que ce qu'on fait, justement, ce n'est pas simplement pallier au manque de l'État, mais c'est inventer en agissant ensemble d'autres manières de faire qui ne sont pas simplement que faire ce que l'État ne fait pas et ce dont il se dédouane sur nous, les citoyens qui nous débrouillons. Mais en fait, en le faisant, on apprend aussi qu'il y a un ensemble de possibles qu'on n'avait même pas pensé imaginables, puisqu'on nous dit constamment qu'on ne peut pas. Il n'y a pas d'alternative. Ben si, en fait, s'il y a des alternatives, en plus, ça peut même être des institutions alternatives. Et du coup, moi, je suis assez marquée par ça, et c'est vrai que je vois qu'en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est important que la question de l'accueil, elle se reprenne, y compris à l'intérieur de nous, et pas simplement comme la chose qu'on doit dire à eux, les mauvais, l'État, etc., mais vraiment aussi à l'intérieur de nous, sur qu'est-ce qu'on exige avec cette chose-là de l'accueil, parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas suffisamment saisi sur ce qu'on a envie de faire avec ça, au-delà de répondre à un problème et donc se mettre dans un truc d'urgence et pas le questionner, et juste on accueille. Et là, juste une chose, après j'arrête, mais il s'est passé à Calais justement une chose vraiment intéressante par rapport à l'accueil, ce que je te le disais brièvement, Marie, l'accueil des mineurs isolés, qui est là, puisque vous savez quand même qu'il y a cette situation étrange à Calais, où en fait, c'est pas les autorités françaises qui décident, c'est les Anglais. La frontière anglaise est à Calais, en fait. Donc, ce sont les Anglais qui font la loi à Calais et dans le Calaisie, et y compris les associations. Donc les personnes qui gèrent les mineurs isolés, c'est RISF, donc c'est Refugee Youth Service. Et donc ces personnes-là qui sont financées par l'État, donc c'est le directeur de ça est un ancien prof de sport qui n'a aucune formation en droit des enfants, mais qui est censé gérer la question, et qui ne s'est absolument pas renseigné sur la situation actuelle dans la jungle et après, mais qui, en fait, dit aux associatifs militants, bénévoles, qu'il ne faut pas qu'ils s'organisent pour accueillir ou pour placer les personnes, ni même pour prendre un lieu qui est toute une procédure dans laquelle ils sont lancés avec le Secours catholique, parce que si les jeunes sont placés trop vite, ils vont recevoir moins de dons. Et du coup, il risque d'être, lui, inutile et donc de perdre son salaire et son travail. Enfin, donc, c'est extrêmement important, en fait, de regarder qui sont les associations, comment ça s'organise, au nom de quoi, au profit de qui, enfin, et que ça redevienne un problème politique pour nous tous.
C'est drôle comme l'enfance, du coup, est en avant. Ça fait penser exactement à ce qui se passe à Ceuta, lorsque il Hein?
C'est Grizzly les Box aussi à Detroit, Detroit.
Ouais.
Ouais.
Ouais, mais je pensais au moment où les gens veulent passer les grillages à Ceuta, les barrières, les barbelés, et ils mettent les enfants devant, en fait. Et tous les mineurs isolés qu'on rencontre, ils sont, quand ils arrivent en tout cas en Espagne, sur la route, ils ont encore les marques des barbelés sur les bras, parce que c'est les enfants d'abord. Pourquoi ? Parce qu'on fait le pari qu'en face, on ne va pas tirer sur des enfants si c'est des enfants qui sont devant. Et là, c'est pareil, on met les enfants en avant, dehors, pour avoir des dons. Dans l'autre cas, c'est pour avoir une chance de passer pour qu'on ne tire pas. Et dans l'autre cas, bon, enfin, voilà, c'est juste.
Non. Du coup, j'étais frappé par les exemples que vous formuliez, puis surtout la réflexion autour de l'hôte et l'autre, etc. Et notamment dans le sens où l'impression, justement, ça oblige à re-questionner et à repositionner la question de citoyenneté aussi. Puisqu'on a l'impression que c'est la citoyenneté aussi. Alors, la notion d'accueil que vous avez inversée, mais on a l'impression que c'est la citoyenneté qui est inversée également. Du coup, parce que ça devient un lieu introuvable, ou un espace où on se dit, est-ce qu'on connaît le droit, est-ce qu'on ne le connaît pas, à quel moment on agit bien, on n'agit pas bien, selon des critères moraux, pas moraux, toutes ces questions-là légitimes. Et où est-ce que je vais chercher le droit, où est-ce que je vais recréer du droit là où il n'y en a plus, là où il devrait, où il y en a encore, mais où il n'y en a plus. Et comment, du coup, recréer des espaces possibles, ou se réimmisser dans les choses qui existent, mais qui sont cachées, etc. Donc on a l'impression que le citoyen refait un parcours, mais qui n'a absolument rien à voir, mais un parcours aussi dans des zones un peu parallèles, du droit, etc., et qui est le parcours de quelqu'un qui traverse des frontières, etc., mais voilà, d'une manière évidemment complètement différente, mais qui cristallise aussi chez les personnes qui vont vers l'autre, etc., qui cristallise ces problématiques-là. Donc c'est vraiment, c'est vraiment assez terrible, en fait.
C'est assez terrible, mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'étais vraiment surprise, en fait, d'à ce point ignorer le droit français et le droit européen et les conventions internationales qu'on a appris, en fait. On les connaît. En fait, on ne sait absolument pas comment elles sont véritablement suivies, qui observe, qui surveille. Et du coup, c'est vrai que le passage à Calais, le fait d'y rester surtout, et tout, il y a eu cette formation, la cabane juridique, qui est donc un ensemble d'avocats qui sont allés bénévolement, en fait, donner un accompagnement juridique aux personnes exilées, parce qu'il en manque terriblement, tu le disais aussi. Mais du coup, quand elle vous explique effectivement ce qu'elle voudrait faire parce que c'est le droit, et ce qu'elles sont empêchées de faire, enfin, le nombre d'avocats d'ailleurs spécialistes du droit des personnes étrangères qui ont fait des burn-out, qui ont arrêté, qui se sont fait démettre de leurs fonctions alors qu'elles les exerçaient justement, c'est complètement... Et du coup, on se rend compte que nous sommes en train collectivement de fermer les yeux sur des infractions permanentes à nos droits, à nous. Nous qui voulons aider les autres, mais en fait, ce sont nos propres conditions de citoyens dans un État démocratique que serait la France qui ne cessent d'être bafouées. Et c'est ça qui est très surprenant. Et à quel point on invisibilise, à quel point on nous met ça à distance pour pas qu'on le prenne depuis cet endroit-là commun. C'est pour ça que je trouve que c'est... Il faut vraiment insister à cette... pointer ce que ça... En quoi ça nous touche au-delà de « Ah, ça m'affecte », parce que en fait, on est tous concernés. Et ce qui... C'est là où, de manière provocante, on peut dire, c'est une chance que nous ayons ces personnes exilées chez nous, parce que au moins il est mis à jour à quel point nous ne sommes plus du tout en possession de nos droits et de nos... Mais c'est très intéressant ce que ça a recréé pour autant de... Enfin, moi, je suis toujours très... Il y a des alternatives, il n'y a pas la bonne solution, mais il y a des petites solutions et des collectifs qui les font. Mais c'est vrai qu'il y a, tout un mouvement de réappropriation du droit, de réappropriation citoyenne. Et parce que dès que c'est dit, tout le monde réagit un peu comme vous le faites là, c'est-à-dire, mais c'est... Ah ouais, en fait, il y a tout ça qu'on ignore. Et du coup, plein de gens se disent, ah, mais c'est pas normal, on est censé connaître nos droits. Et du coup, on est censé pouvoir dénoncer une infraction du droit, y compris par les instances qui sont censées... le faire respecter. Et du coup, il y a plein de petits collectifs. Moi, je disais ça parce qu'en Belgique, ça s'est créé à la suite d'une discussion un peu comme celle-ci, où du coup, je disais, mais c'est pas possible. Et du coup, une juriste qui avait arrêté ses fonctions parce qu'elle avait été plusieurs fois punie par le barreau ou je sais plus quoi. Et du coup, elle a arrêté. Mais là, elle avait pris la parole, elle avait expliqué. Les gens autour avaient dit, mais c'est pas possible. Et du coup, maintenant, elle aurait fait des ateliers de réappropriation du droit. Mais c'est très intéressant. Et après, toutes les personnes, plus du champ numérique, s'appellent les exégètes amateurs, je crois, qui sont là. Il y a des juristes qui font des formations pour toute cette communauté-là. Enfin, du coup, ça recrée effectivement des institutions alternatives au sens où on agit ensemble. Et en fait, c'est bien. C'est bien d'agir ensemble.
C'est possible.
Les professionnels qui sont dépossédés de leur outil. Enfin,
ah oui.
Qui repartent sur d'autres éléments, quoi. Oui. Sur d'autres façons d'agir. Ouais.
Allez.
Non, il y avait tout à l'heure, quand vous avez dit les anecdotes sur l'accueil entre la charité et évidemment aussi le plaquage en fait de certaines attitudes qu'on peut avoir. Ça m'a fait penser à plusieurs passages dans le livre de Nathalie Quentin sur un œil en moins, où elle parle justement des maisons d'accueil où elle y va, elle retourne. Et où les bénévoles, en fait, comparent les différentes nationalités. Mais celui-là, bon, il n'y a rien à en faire. Mais celui-là, il tire bien le chariot pour mettre en place la crêpière. donc tout un tas de choses comme ça qui se glissent, en fait, dans un comportement un peu biaisé entre cette charité à l'ancienne, où on fait du bien, on est quand même de bonne volonté, mais en même temps, on est complètement irrespectueux des personnes qu'on a autour de soi. Donc, il y a plusieurs choses comme ça. Et je pensais aussi, il y a encore un autre terme, c'est le fraudeur. Hein. En fait, celui qui se présente à l'ASE comme mineur. Et l'ASE, évidemment, conteste la minorité et ensuite, il est poursuivi en fraude. Parce que si c'est le cas, donc j'ai eu plusieurs cas comme ça à Poitiers qui s'est arrivé.
Il est poursuivi pour escroquerie au département. Et y a des enfants qui sont en prison comme ça. En prison pour majeurs, pour le coup, sans présomption de leur minorité.
Pour conclure ? Oui. Oui. Donc... Bon, merci d'être venu. Merci à Camille, merci à Marie. Et le festival n'est pas fini. Ça continue demain. Donc il y a certains qui sont même dans la salle. Il y a Arnaud Bertina, là, au fond, qui est un des invités de demain, et Camille de Toledo. Voilà. À l'UNIF, au campus, donc UFR Lettres et Langues.